Alors bonjour, je m'appelle Marie-Pierre Lardot, je suis avec un groupe de recherche de McGill et aussi on a un partenaire local à Iqaluit. Donc aujourd'hui, on change un peu de région géographique. Ah, j'ai pas le micro. On change de région géographique, en fait on s'en va dans l'Arctique canadien. C'est là où nous on travaille et puis on change un peu de thème aussi. Donc nous on travaille sur la sécurité alimentaire et la vulnérabilité de certaines communautés au changement climatique et la sécurité alimentaire. Donc, je voulais commencer par juste vous dire un peu qui on est. Je travaille pour le Dr. James Ford. Son laboratoire de recherche, c'est sur la vulnérabilité et l'adaptation au changement climatique. Puis, on essaie vraiment d'avoir une approche intégrée où on regarde les sciences sociales, les sciences physiques, les sciences de la santé. Puis, on intègre le savoir inuit traditionnel. Puis on se spécialise surtout dans des études de cas, puis des études comparatives, donc soit comparer ce qu'on voit dans l'Arctique, dans plusieurs communautés, aussi au niveau international. Donc là, en ce moment, on prépare un projet en regardant les choses qui se passent en Arctique, chez les Pygmées en Ouganda, puis en Amazonie. Donc on fait plusieurs, on essaie de faire des comparaisons dans des mêmes écosystèmes, mais aussi en regardant au niveau international. Donc vu qu'on parle de sécurité alimentaire, alors je vais commencer par vous décrire un peu le système alimentaire inuit. C'est un système qui est considéré comme étant mixte. Il y a la nourriture traditionnelle qui est produite et consommée localement. Donc ça vient vraiment de la chasse et de la pêche. Puis ça inclut des exemples, le caribou, le morse, le phoque, l'omble de l'Arctique. La nourriture importée, elle est importée du sud, soit une fois par année par bateau, ça se rend dans les communautés, ou sinon par avion à chaque semaine. Et puis, c'est des produits frais, des produits transformés, comme ce qu'on trouve à l'épicerie. Ce qui est vraiment important de savoir, c'est que la nourriture traditionnelle, elle est fortement liée à un sentiment d'identité, à l'identité culturelle, à un bien-être, aussi à la santé mentale. Et puis, un élément clé de la culture inuit, c'est le partage de la nourriture traditionnelle. Donc, la nourriture qui est partagée entre les familles, mais aussi d'une communauté à l'autre, par avion. Donc, ça, c'est vraiment important. Puis ça, c'est, en passant toutes les photos que je vais montrer, tout le monde a donné son consentement, donc tout le monde accepte que ces photos soient présentées. Donc ça, c'est vraiment un exemple typique. Donc c'est une aînée à Iqaluit qui, justement, son fils est chasseur, donc avait ramené, ben là, il y a du phoque puis un oiseau. Puis elle allait le préparer avec, justement, la nourriture importée, donc oignons, pommes de terre et compagnie. Donc, la sécurité alimentaire, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, quand le système alimentaire fonctionne bien, il y a de la nourriture en quantité suffisante pour tous. Ça repose sur trois piliers, selon, il y a plusieurs définitions, mais celle de la FAO, c'est qu'il y a trois piliers. Que la nourriture soit accessible, donc qu'on soit capable d'y avoir physiquement accès, qu'elle soit disponible, donc si on va chasser, que les animaux soient là, ou si on va à l'épicerie, qu'il y a de la nourriture à l'épicerie, puis qu'elle soit aussi de qualité suffisante, qu'elle soit fraîche, qu'elle ne soit pas infectée ou quoi que ce soit. Certaines personnes ajoutent aussi un autre pilier, qu'elle soit culturellement appropriée. Puis ça, c'est assez important dans le contexte inuit, parce que la nourriture traditionnelle est vraiment importante. Donc, quand il y a un stress sur le système alimentaire, c'est là qu'on parle d'insécurité alimentaire. Donc, il n'y a pas assez pour tout le monde. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu des études qui ont comparé la réaction à l'insécurité alimentaire dans plusieurs cultures très différentes. Inuit, au Bangladesh, en Afrique. Puis dans tous les cas, les foyers qui sont en situation d'insécurité alimentaire tendent à réagir de la même façon. Donc, une des choses qui va se passer, c'est que le régime alimentaire change. Donc, on va commencer à acheter la nourriture de moins de qualité, la nourriture qu'on préfère pas, mais on n'a pas le choix. Limiter la consommation de nourriture, donc sauter les repas, limiter les portions. Puis dans presque toutes les cultures, c'est les mères qui vont commencer par limiter leurs portions ou manger de la nourriture qu'elles préfèrent moins. Puis quand ça devient plus grave, ben là, c'est les enfants qui ont des portions plus petites ou qui sont tout simplement pas nourris. Une autre technique, ça va être de chercher de la nourriture par d'autres moyens qui sont parfois socialement inacceptables, ou d'acheter de la nourriture par crédit, d'utiliser des banques alimentaires qui ne sont pas toujours bien vues dans toutes les cultures. Et finalement, de changer la structure du foyer, donc d'envoyer certains membres de la famille manger ailleurs parce qu'il n'y a tout simplement pas assez dans le foyer. Donc, comme je vous ai dit, le système alimentaire, quand il y a un stress sur le système alimentaire, c'est là où on peut avoir des problèmes de sécurité alimentaire. Il y a eu de la recherche qui a été faite en Arctique. Donc, certaines des conclusions de recherche précédentes qui ont identifié des stress, bien, il y en a un, c'est par exemple le stress culturel. Donc, il y a vraiment un changement au niveau de la société où il y a les préférences alimentaires qui changent. Certains jeunes n'ont plus envie de manger la nourriture traditionnelle, donc ils préfèrent la nourriture des magasins, puis ça coûte très cher. Donc, ça devient de plus en plus difficile pour certains foyers de tout simplement payer pour toutes ces nouvelles factures d'épicerie. Aussi la perte de réseau de partage de nourriture, donc certains qui sont moins intéressés à partager vu que la chasse est de plus en plus difficile, donc ils ont moins envie de partager avec tout le monde. D'autres stress au niveau socio-économique, le chômage, c'est une réalité très présente dans le Nord. Et aussi les dépendances, les problèmes au niveau de l'alcoolisme et au niveau des drogues. La plupart des communautés dans l'Arctique, c'est des « dry communities », donc l'alcool est interdit, mais évidemment, il y a énormément de contrebande, donc l'alcool est extrêmement cher. Et finalement, aussi les stress au niveau des conditions environnementales qui changent, les glaces, ça je vous en parlerai un peu plus dans quelques instants, au niveau du changement des migrations des animaux, puis les tempêtes aussi qui se font plus fréquentes. Puis tout ça, ça se passe dans un contexte de changement climatique et de profonds changements au niveau de la société dans les 50 dernières années. Donc, qu'est-ce qu'on sait à propos des changements climatiques en Arctique? Bien, on en a parlé un peu hier, mais plus précisément par rapport à l'Arctique, bien, il y a une augmentation des températures qui est presque deux fois plus élevée que la moyenne globale. Il y a aussi une diminution de la glace, de l'étendue de la glace marine, de l'épaisseur de la glace, puis aussi des événements météorologiques extrêmes plus fréquents et plus intenses. Donc, des choses comme de la pluie, quand il y a des tempêtes de pluie, quand il y a déjà eu de la neige, ça fait une croûte de glace, puis ça, c'est extrêmement néfaste pour les caribous. Puis justement, il y a eu plusieurs événements où il y a des quantités de 10 000 caribous qui meurent parce que justement, ils ne peuvent plus manger le lichen sur lequel ils se nourrissent normalement. Donc, des choses comme ça, ça peut vraiment avoir un problème au niveau de la sécurité alimentaire. Donc, comment est-ce que les changements climatiques peuvent avoir un impact justement sur la sécurité alimentaire? Mais c'est surtout sur l'aspect de la nourriture traditionnelle. Donc, comme je l'ai dit, un des piliers, c'est que la nourriture soit accessible. Donc, avec les changements climatiques, les aires de chasse sont plus difficiles à accéder. Justement, vu que la glace n'est plus là, bien, c'est plus difficile de se rendre physiquement à certaines aires de chasse. La nourriture n'est pas toujours disponible, vu qu'il y a beaucoup d'espèces qui migrent de plus en plus au nord. Et aussi au niveau de la qualité, les changements climatiques ont été associés avec certaines maladies d'animaux marins, des oiseaux, des poissons, des crustacés. Donc ça, c'est juste pour vous donner un exemple de c'est quoi de la chasse moderne. Donc la chasse, ça se fait plus en traîneau à chien, à part dans de très petites communautés. Donc ça, c'est typiquement, c'est en skidoo avec le camoutik, donc un traîneau en arrière, puis c'est là où on met toutes les fusils, l'essence et tout. Donc vous pouvez imaginer que s'il n'y a pas de neige, que s'il n'y a pas de glace, mais on ne peut tout simplement pas physiquement se déplacer pour aller chasser. Au niveau de la nourriture importée, bien, en général, l'augmentation de la fréquence justement de ces éléments météorologiques extrêmes ou des grandes tempêtes, du brouillard, ce qui est extrêmement rare dans l'Arctique, mais ça fait que les avions ne peuvent pas rentrer. Donc, il y a souvent des retards en approvisionnement des magasins, puis ça, c'est vraiment quelque chose de très fréquent, que tout simplement, les étagères sont vides au magasin. Donc, la disponibilité et puis aussi la qualité. Puis ça, c'est vraiment fréquent. Ça pourrait être allé plusieurs fois. Souvent, les fruits, les légumes sont tout simplement pourris ou à moitié pourris puis sont encore vendus. Donc, qu'est-ce qu'on sait à propos de l'insécurité alimentaire en Arctique? Bien, il y a eu une grande enquête qui a été faite au niveau canadien qui a regardé avec un questionnaire très court de 6 questions. C'était quoi la prévalence de l'insécurité alimentaire au Canada? Ce qui sort vraiment de cette étude, c'est qu'au niveau canadien, c'est à peu près 15% des foyers sont en situation d'insécurité alimentaire. Puis au Nunavut, où est-ce que nous on travaille, c'est 56%. Ils n'ont pas cherché à regarder les causes, c'était juste vraiment voir la magnitude du problème. Donc, il y a eu certaines études de cas qui ont été faites dans des communautés plus petites, plus isolées, pour essayer de voir qu'est-ce qui se passait dans ces communautés. Puis, ça a été jusqu'à 80% des foyers qui étaient en situation d'insécurité alimentaire. Donc, nous, la question qu'on s'est posée, c'est en fait, il n'y a vraiment aucune information sur ce qui se passe dans les centres régionaux inuits, donc des centres qui sont en forte croissance. Donc, on ne sait vraiment pas dans des régions où justement c'est de plus en plus urbanisé ou c'est moins traditionnel, où les gens ne vont plus vraiment chasser, qu'est-ce qui se passe au niveau de la sécurité alimentaire, puis quels sont les groupes vulnérables. Donc, ça m'amène à vous parler de notre projet aujourd'hui. Alors, on fait une étude de cas, on fait une étude comparative de de 4 communautés dans l'Arctique. Donc, Iqaluit, c'est ici sur la terre de Baffin, qui est près du Groenland. On a une étude de cas aussi à Koudjouak, qui est au nord du Québec, à Arviat, qui appartient aussi au Nunavut, puis Inuvik, qui est dans les territoires du Nord-Ouest. Donc, c'est les capitales de chacune de ces régions. Donc, on a décidé de travailler dans un contexte un peu plus urbanisé, une économie mixte. Et puis, donc, c'est ça de comparer ces 4 études de cas. Alors, un petit peu à propos d'Iqaluit, ça, c'est une vue d'Iqaluit. Il y a 7000 personnes, à peu près 85% Inuit. Il y a une forte croissance au niveau démographique. C'est une économie vraiment mixte. Il y a plusieurs mines, il y a plusieurs gens qui vont travailler au gouvernement. Et puis, il y a vraiment une très forte population migratoire. Donc, c'est la seule communauté qui a un hôpital. Donc, tous ceux qui ont besoin de services médicaux vont à Iqaluit. C'est la seule communauté où il y a un accès à l'éducation à un niveau supérieur après l'école secondaire. Et c'est aussi la seule communauté pour le Nunavut qui a une prison. Donc, il y a énormément de gens qui sont là parce que tous ceux qui sont envoyés de d'autres communautés sont en attente de procès à Iqaluit. Puis c'est aussi la seule communauté qui a des refuges pour les hommes et aussi pour les femmes en situation de violence domestique. Donc, il y a vraiment une population migratoire qui arrive là puis qui parfois ne repart pas vraiment parce que le seul mode de transport, c'est par avion. Donc, les prix d'avion sont extrêmement chers. Donc, ça fait un genre de bassin de population migratoire. Qu'est-ce qu'on sait à propos de l'insécurité alimentaire à Iqaluit? Bien, on n'a pas de chiffres précis. On peut supposer que ça ressemble à ce qu'on a vu au niveau national ou dans les études de cas. Mais on sait que c'est un problème qui prend de l'ampleur. Puis justement, il y a une réponse locale à ce problème. Il y a eu 3 organisations qui ont vu le jour presque en même temps à Iqaluit pour essayer justement de répondre aux problèmes de sécurité alimentaire. Donc, je vous en parle. Le premier, c'est Tukisigarvik. C'est un centre qui a été créé avec la communauté locale, qui est vraiment très différent et très unique. En fait, ils ont de l'argent pour payer des chasseurs pour aller chasser. Ils ramènent ce qu'ils ont chassé, puis ça, c'est partagé dans le centre. Il y a des aînés qui sont là comme des conseillers. Donc, c'est un centre de jour. Les gens peuvent y aller le jour, manger de la nourriture traditionnelle, puis s'ils ont besoin de services, des conseillers. Ils reçoivent 3500 visites par an. Et puis, c'est ça. Donc, c'est le seul endroit où il y a de la nourriture traditionnelle accessible à Iqaluit, si bien à part si on a un chasseur dans la famille. Le deuxième endroit, ça a été vraiment une réponse plus de l'Église, en fait. C'est l'Église anglicane qui a décidé de recréer les soupes populaires comme on en voit dans plusieurs endroits. Donc, eux servent jusqu'à 9000 repas par année, reçoivent à chaque jour à peu près 60 personnes. Ils leur donnent un sandwich, un bol de soupe. Puis, c'est surtout les adultes, surtout les hommes, en fait, qui utilisent ce service. Donc, ça, c'est vraiment un modèle plus, justement, une vision qu'on voit plus typiquement du sud. Bien, quand on est dans le nord, ils parlent du sud comme étant Montréal, Ottawa, tout ça. Donc, une vision plus du sud de l'aide pour une population, justement, qui est en insécurité alimentaire. Le troisième, c'est une banque alimentaire. Donc, ça, en fait, c'est des fonctionnaires qui travaillent à Iqaluit, qui ont décidé un peu de prendre les choses en main. Puis, donc, à chaque 2 semaines, il y a la banque alimentaire qui est ouverte, puis les gens peuvent aller chercher un sac de nourriture. Ils reçoivent à peu près 1000 visites par année. Eux, ils ont vu une augmentation de 50% du nombre de visites de 2005 à 2006. Puis, ils aident surtout les familles. Puis, dans tous les 3 cas, ils ont vraiment noté une augmentation au niveau de la demande. Puis, personne ne sait vraiment pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Donc, la méthodologie de notre projet, c'est une méthodologie mixte. On a décidé de commencer en travaillant avec une population qui était déjà en situation d'insécurité alimentaire, donc dépendante des 3 programmes dont je vous ai parlé. Puis on a décidé aussi d'utiliser une méthode participative, comme on a vu avant, afin d'identifier les déterminants de l'insécurité alimentaire, puis ensuite de faire des entrevues pour comprendre un peu qui est le groupe le plus vulnérable, est-ce que les changements climatiques vont avoir un effet dans ce cas-ci, puis identifier les autres stress, parce qu'on est bien au courant qu'il n'y a pas juste les changements climatiques. Donc, je vais vous parler du Photo Voice. Alors, c'est la première fois qu'on utilisait ça pour regarder le thème de la sécurité alimentaire. C'est participatif. Donc, en fait, les gens deviennent des co-chercheurs. Alors, nous, on a travaillé avec les gens qui utilisaient les services. Et puis, ils deviennent un peu comme des journalistes dans leur propre communauté. Donc, on leur pose une question. Dans ce cas-ci, c'était... on leur demandait de nous parler de la sécurité alimentaire. Et puis, on les équipe avec des caméras, et puis ils partent 2-3 jours prendre des photos. Ils reviennent ensuite, on discute les photos, puis on regarde s'il y a des thèmes. Donc, je vais vous présenter les résultats dans quelques instants. C'est souvent utilisé avec les groupes marginalisés qui sont souvent oubliés de la recherche, qui sont très peu souvent inclus. D'ailleurs, les gens étaient un peu surpris au début qu'on les a invités à participer. Puis c'est ça, la première fois qu'on utilisait ça. Puis évidemment, on leur enseigne tout à propos du consentement, puis comment, si quelqu'un apparaît sur une photo, c'est quoi les règles et tout ça. Puis tout ça, c'est présenté en ce moment au musée d'Iqaluit, si jamais vous y allez. Donc, on a recruté des utilisateurs des services et puis on leur a posé la question, c'est quoi les aspects de votre vie quotidienne qui affectent ce que vous mangez et la quantité de ce que vous mangez? Puis on voulait juste voir un peu ce qu'eux allaient nous répondre à travers la photo. Donc, quand ils sont revenus, après quelques jours, on a imprimé toutes les photos et puis on a vu, on leur a demandé s'ils voyaient des thèmes. Puis il y a vraiment 4 thèmes très distincts qui sont ressortis. Donc, ça, c'est vraiment leur résultat que je vous présente. Et puis, tout le monde a accepté que ces photos soient diffusées et puis discutées. Donc, le premier thème, c'est à propos justement de l'importance de la nourriture traditionnelle et puis le partage de celle-ci. Puis ça, c'est les commentaires que les gens faisaient quand on discutait des photos. Alors, cette photo, elle est intéressante parce que c'est une des participantes qui voulait justement nous montrer à quel point la nourriture traditionnelle et surtout le caribou est très important pour eux. Puis c'est vraiment important au niveau de la sécurité alimentaire, mais elle a pas de chasseurs dans sa famille. Et puis, en fait, avant, il y avait des caribous qui passaient à Iqaluit, mais il n'y a plus de caribous du tout qui passent dans le coin d'Iqaluit. Donc, la seule façon qu'elle a trouvé d'en parler, c'est de prendre une photo de caribou qui était justement dans le journal. Donc, elle a pris une photo, puis ça, c'est ce qu'elle voulait montrer. Justement, elle parlait justement du sentiment de sentir mieux quand elle mangeait de la nourriture traditionnelle. La deuxième photo, c'est un des participants qui avait un chasseur dans sa famille. Donc, lui, ce chasseur, justement, amenait souvent à chaque semaine la nourriture traditionnelle. Puis ça faisait vraiment que c'était plus facile dans leur famille d'y avoir accès. Puis ça, c'est un morceau de phoque, en fait, qui avait été chassé. Donc, ça, c'est le premier thème. Le deuxième thème, c'était justement par rapport au programme de soutien. Et puis, comment c'était vraiment vu comme quelque chose d'essentiel en ce moment à Iqaluit. Donc, ça, c'est la nourriture qui est reçue à la banque alimentaire. Puis, donc, justement, c'est essentiel de l'avoir ici à Iqaluit. Ce serait encore mieux si on l'avait chaque semaine. Une autre photo qui a été prise par les participants, c'est au centre de jour où est-ce qu'ils donnent la nourriture traditionnelle. Puis, justement, ceux d'entre nous qui n'avons pas de skidoo, c'est ici qu'on vient chercher notre nourriture traditionnelle. C'est ici qu'on en a le plus. Puis, une autre des photos qui a été prise, c'est aussi dans ce centre de jour. Puis, justement, en parlant de « je me sens mieux quand je mange la nourriture traditionnelle, je peux venir ici, je peux en venir en manger. » Puis, j'aime pas seulement manger la nourriture importée. Donc, c'est vraiment important de voir qu'il y a vraiment… le système est vraiment mixte, mais ils sont pas prêts à abandonner complètement la nourriture traditionnelle. Le troisième thème, c'est à propos du coût de la nourriture en Arctique. Ça, c'est vraiment une des participantes, ça a été sa mission, c'est de documenter à quel point c'est tellement cher la nourriture en Arctique. Donc, 2 litres de jus ici, c'est 8,49 $, puis ça, c'est censé être un bon prix. 1 litre de lait, c'est typiquement au moins 4 $, tandis qu'à Montréal, c'est 1 $. Donc, tout est multiplié par 3 ou par 4, mais c'est pas comme si les salaires étaient multipliés par 3 ou par 4. Donc, les commentaires, c'est encore pire dans d'autres communautés, mais c'est encore trop cher par rapport au Sud. Puis le coût de la vie ici est complètement fou. Donc, vous voyez que si les gens n'ont plus accès à la nourriture traditionnelle, ils doivent seulement se payer des choses au magasin, ça devient très cher. Puis ça ici, c'était pour parler justement du thème que ça pose des limites sur les choix de la nourriture, vu que la nourriture est tellement… déjà, elle est tellement chère, donc ça impose des choix. Donc, celle-ci disait, en fait, je préférerais payer de la nourriture traditionnelle au magasin, parce qu'il y a certains endroits où ça se vend, mais vu que même ça, c'est trop cher, je dois me rabattre sur des côtelettes de porc qui sont importées du Sud. Mais justement, je n'ai pas vraiment envie, mais c'est ce que je peux me permettre. Puis finalement, le quatrième thème, c'est assez évident. Ça, c'est une des participantes qui habite en fait dans justement ce refuge pour femmes. Puis elle voulait vraiment passer un message, qu'est-ce qui justement avait un impact sur la sécurité alimentaire. Donc, elle a fait cet arrangement, puis on a calculé que juste pour se payer ce qu'il y avait sur cette photo, ça coûterait au moins 140 $, justement parce que l'alcool, c'est tout de contrebande, donc c'est très cher. Puis justement, parfois ça vient en premier avant la nourriture, puis c'était comme ça quand je grandissais, puis c'est encore comme ça. Donc, puis l'autre photo qu'elle a prise, c'est un autre montage qu'elle a fait, et puis elle a mis, c'est ça, des feuilles de tabac, parce que le tabagisme est extrêmement élevé aussi en Arctique, puis ça coûte très très cher. Puis elle les a mis sur une feuille pour s'inscrire au logement social. Donc là, justement, ça partait d'une discussion sur où va l'argent, puis comment faire un budget, puis que c'est pas toujours facile. Donc, ça peut être utilisé un peu comme un focus group, mais de façon beaucoup plus imagée. Puis ce qui est intéressant, c'est aussi, fait dans une population comme celle-ci, qui a une forte tradition orale, c'est beaucoup plus intéressant et interactif pour partir une discussion que juste écrire sur des tableaux. Donc, c'est une façon comme une autre de faire de la recherche. Donc, on a aussi fait des entrevues. En fait, je viens de terminer. Donc, je peux juste vous donner... Je n'ai pas tout rentré encore, donc juste quelques mots. On a complété 92 entrevues avec les gens qui utilisent ces services pour justement comprendre un peu qu'est-ce qui se passe. Qui sont-ils? Est-ce que c'est des gens des autres communautés? À quel point est-ce qu'ils sont vulnérables et tout ça? Bon, alors on a eu 39 femmes et 53 hommes. Ça, c'était les... j'avais engagé deux personnes qui eux-mêmes utilisent les services. Donc, je leur avais enseigné comment tout faire, le travail de terrain, et puis j'étais avec eux. Et puis, donc on recrutait tous les jours. Puis donc, ce que je peux vous dire en ce moment, c'est que justement, la majorité, ils étaient sans emploi, ils vivaient de l'assistance sociale. Ils étaient tous en situation d'insécurité alimentaire, mais ça variait de degré. Et puis, ils avaient vraiment peu d'interactions avec les réseaux de partage. Donc, c'est des gens qui sont un peu comme, justement, marginalisés. Donc, ils n'ont pas accès, ils n'ont pas de chasseurs dans leur famille, ils n'ont pas accès, justement, à la nourriture traditionnelle. Ils avaient une très, très forte dépendance à ces programmes sociaux. Donc, tous les jours, ils allaient manger de la soupe. À chaque deux semaines, ils allaient chercher leur sac de nourriture. Tous les après-midi, ils allaient à Tukisigurvik. Puis, ce qui était un peu inquiétant, c'est que la source principale de nourriture traditionnelle pour ce groupe, c'était vraiment à Tukisigurvik, le centre de jour. Donc, aucun moyen à travers la famille ou les amis d'avoir accès à cette nourriture. Donc, en conclusion, bien, le Photo Voice, ça a été une méthode intéressante pour nous de voir un peu c'est quoi les déterminants de la sécurité alimentaire. On n'a pas vraiment vu les changements climatiques comme impact. Je veux dire, il n'y a personne qui a pris ça, qui a essayé de parler du climat à travers la photographie, mais on peut encore voir que les changements climatiques vont avoir un effet à travers la nourriture traditionnelle qui sera encore plus difficile à accéder. Donc, ce qui était positif, c'est les réseaux de partage de nourriture traditionnelle, les programmes communautaires, et négativement, le coût des aliments, puis les dépendances, puis tout ce qui est lié au budget. Puis à travers les entrevues, bien, en fait, on a réalisé que le groupe avec qui on a travaillé était peut-être un peu moins vulnérable qu'on aurait pensé à la base, parce qu'ils étaient en quelque sorte protégés par les programmes communautaires. Mais c'est peut-être pas la meilleure adaptation. Justement, le centre Tukisigurvik va peut-être fermer dans quelques mois. Ils viennent juste de perdre tout leur financement. Il y a aussi tout le fait que justement cette nourriture traditionnelle soit tellement importante pour la santé mentale, l'identité culturelle. Donc, si ce centre ferme, puis c'est la seule source de nourriture traditionnelle pour tout le monde, bien, ça pourrait quand même être assez négatif. Puis évidemment, ben ça j'en ai déjà parlé, les changements climatiques. Puis aussi justement cette dépendance au programme. Alors, je trouvais ça intéressant parce qu'hier, ben, il y a François qui parlait d'une adaptation qui peut mener justement à une perte de culture. Alors dans ce cas-ci, il s'adapte un peu à ce qui se passe en ce moment, l'insécurité alimentaire, mais en chemin, ils perdent aussi une immense partie de leur culture. Donc, c'est quelque chose qu'il faut quand même considérer. Alors, donc c'est ça. En ce moment, c'est vraiment à court terme. Il n'y a vraiment pas de planification. Vous avez vu, en fait, dans ces programmes, il n'y a aucune instance gouvernementale qui est impliquée. C'est vraiment au niveau, c'est caritatif. Donc, il n'y a aucune planification. Donc là, en ce moment, on règle le problème au jour le jour, mais on ne pense pas vraiment au long terme. Donc, le changement climatique, c'est vraiment un stress parmi tant d'autres. Et puis, le stress socio-économique semble en ce moment plus important. Puis, donc, ce serait intéressant de voir, là, plus on continue, qu'est-ce qui se passe dans les autres communautés, puis de voir comment ça se passe, puis comment, c'est quoi l'adaptation qui se fait dans les autres communautés en Arctique.